Il est midi et demi. Le journal à deux voix. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Nous commencerons ce journal avec cet accord signé la nuit dernière sous l'égide de la Russie, censé mettre fin aux hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le conflit qui les oppose dans l'enclave du Haut-Karabakh. Accord qui consacre en réalité la victoire militaire de Bakou.
Toujours dans votre journal, Thomas, c'est un immense espoir qu'a suscité hier l'annonce par Pfizer d'un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus.
Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Yves Godin, virologue directeur de recherche au CNRS.
En France, les principaux syndicats d'enseignants appellent à une grève sanitaire aujourd'hui contre le protocole mis en place dans les établissements scolaires.
Toujours et encore lié à cette épidémie de coronavirus, le président du Sénat, Gérard Larcher, affirme ne pas être opposé au report des régionales et des départementales. Enfin, alors que débute une nouvelle semaine cruciale de négociations entre Londres et Bruxelles sur leurs futures relations commerciales post-Brexit, nous tenterons d'analyser le revers subi hier à la Chambre des Lords par le Premier ministre britannique Boris Johnson, concernant son projet de loi sur le marché intérieur. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
La guerre, quel mot pour la dire, surtout quand on est de retour et que la vie a repris tout autour son cours. C'est à partir de la guerre d'Algérie et de cette mémoire, de ces mémoires tues, oubliées, qu'elle a travaillé. L'historienne Raphaël Branche sera notre invitée à partir de 12h55.
Après 6 semaines d'affrontements meurtriers et pas moins de 3 tentatives de cessez-le-feu infructueuses, on aurait pu imaginer que l'annonce cette nuit d'un accord pour mettre un terme définitif au combat dans l'enclave du Haut-Karabakh soit accueillie comme un soulagement. À l'inverse, parce qu'elle consacre en réalité la victoire de l'Azerbaïdjan, la nouvelle s'est aussitôt répandue comme une traînée de poudre dans la capitale arménienne avant d'être accueillie par des cris de rage et de dépit par une foule de manifestants vociférant leur hargne contre le Premier ministre qualifié de traître à la nation. Toute la nuit, des centaines d'émeutiers ont occupé tour à tour le siège du gouvernement et le Parlement. En d'autres termes, non seulement ce cessez-le-feu aura peu de chance a priori de mettre fin à la haine réciproque entre les deux ennemis, en témoigne d'ailleurs la déclaration hier du président azerbaïdjanais. J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens et nous l'avons fait. Mais cet accord, Régis Janté, aura aussi possiblement ouvert donc une profonde crise politique en Arménie.
Chers compatriotes, sœurs et frères, j'ai personnellement pris une décision très dure pour moi et pour nous tous. J'ai signé une déclaration sur la fin de la guerre du Karabakh avec les présidents russes et azerbaïdjanais. C'est par ces mots que le premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé sur les réseaux sociaux ce que bien des Arméniens appelaient tout de suite la capitulation. Aussitôt, sur les coups de 1h30 du matin, le centre de Yerevan a été envahi de voitures roulant à toute allure et klaxonnant. Bientôt, la population s'introduisait dans le siège du gouvernement à la recherche du Premier ministre. Ils y trouveront le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, qui sera sérieusement molesté. Même chose à l'Assemblée nationale, où l'hémicycle a été le théâtre de scènes chaotiques. Beaucoup répétaient la même question. Pourquoi avons-nous sacrifié des centaines de vies depuis le 27 septembre sur le front pour aujourd'hui capituler, céder nos terres du Karabakh aux Azerbaïdjanais? Les couloirs du Parlement étaient investis par les manifestants qui s'introduisaient dans les bureaux des députés comme à la recherche de preuves de leur traîtrise.
Alors depuis ce matin, l'armée russe a commencé à dépêcher 2000 de ses soldats et pas moins de 90 blindés dans l'enclave du Haut-Karabakh pour une opération de maintien de la paix. L'occasion de noter tout d'abord que cet accord signé sous l'égide de Moscou était même de renforcer l'image d'arbitre de la Russie dans la région, mais pas seulement, car Moscou avait jusqu'à présent un pacte de défense avec l'Arménie. Dès lors, pourquoi la Russie a-t-elle privilégié l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie? Faut-il parler de trahison à l'égard des séparatistes arméniens? Nadine Epstein a posé la question à Marie Mandras, politologue au CNRS. Selon elle, vous allez l'entendre, la Russie n'avait pas d'autre choix.
La Russie n'avait absolument aucun choix. Elle s'est trouvée face à la dure réalité qui était que les forces azerbaïdjanaises et turques dominaient de loin l'armée arménienne et que le Kremlin ne tenait absolument pas à entrer dans la bataille et à défendre le Haut-Karabakh sur le terrain. Et la Russie doit accepter la défaite de l'Arménie. Pour la Russie, le combat était déjà perdu face à l'Azerbaïdjan et à la Turquie. Et donc, il valait mieux pour Moscou être le négociateur d'une paix pour garder
un certain contrôle sur l'Arménie, qui va désormais être encore plus dépendante du voisin russe.
Est-ce que le cessez-le-feu qui vient d'être signé a toutes les chances d'être respecté ou peut-il voler en éclats comme il y a 3 semaines ?
Il semble que ce soit véritablement un accord auquel le gouvernement arménien et le gouvernement autoproclamé du Karabakh doivent se soumettre, et on dit qu'ils vont se soumettre. Il y a évidemment des manifestations et des protestations en Arménie contre la décision du premier ministre arménien. Et voilà, les armes ont parlé, et ce qui a fait vraiment basculer cette guerre en 6 semaines, ça a été le soutien des Turcs à l'Azerbaïdjan et le retrait de la Russie dans cette bataille.
Marie Mandras, politologue au CNRS, joue en téléphone par Nadine Epstein. Et puis j'ajoute que la France vient d'annoncer ce matin qu'elle poursuivrait activement ses consultations avec la Russie pour parvenir à un accord durable qui préserve et respecte les intérêts de l'Arménie. L'annonce a immédiatement provoqué une gigantesque vague d'espoir à la mesure de l'effroi qui a saisi la planète tout entière depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 hier. Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé l'arrivée d'un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus, laissant entrevoir l'horizon même lointain d'une fin de crise possible. Alors précisons tout de suite que les essais cliniques vont continuer avant d'autoriser toute distribution, ce qui signifie que le grand public devra attendre l'an prochain, voire l'été 2021, avant d'espérer avoir accès au vaccin. Toujours est-il que l'excitation est aujourd'hui palpable, même si un certain nombre de questions évidemment demeurent. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois d'abord que des résultats laissent entendre qu'on pourrait prochainement obtenir un vaccin efficace pour nous protéger contre cette infection. Mais au-delà, cela signifie aussi que nous serions à l'aube d'une véritable révolution scientifique. Et ce, grâce aux procédés utilisés, en l'occurrence de l'ARN, ce qui, Tarach Legal, est tout à fait nouveau.
Oui, et d'ailleurs une poignée d'autres laboratoires sont sur les rangs. L'Institut Pasteur, avec malheureusement une force de frappe bien moindre qu'un géant comme Pfizer, travaille sur des vaccins à base d'ADN. La biotech américaine Moderna est sur le même créneau. D'ailleurs, Donald Trump lui avait octroyé récemment 1,2 milliard de dollars, c'est dire si ces vaccins sont prometteurs. Et puis en France, Sanofi s'est associé avec une autre biotech, Translate Bio, qui se trouve au Massachusetts, et avec laquelle il développe l'un de ces deux vaccins, à savoir un vaccin à ARN messager, donc exactement la même technique que celui de Pfizer. Alors quel est le principe de ces tout nouveaux vaccins ? Eh bien, l'objectif est comme toujours d'amener notre système immunitaire à combattre un ennemi, en l'occurrence à combattre la protéine spike du nouveau coronavirus. En général, dans un vaccin classique, on injecte cette protéine. Mais là, on veut conduire nos cellules à fabriquer elles-mêmes la protéine. Donc, on va leur donner la recette qui est contenue dans l'ADN du SARS-CoV-2 et qui lui permet de fabriquer cette protéine spike. Cette recette, on va l'inoculer sous forme d'ARN messager. C'est-à-dire que c'est une copie d'une fraction du brin d'ADN qui code pour cette protéine. Le reste, c'est le vice-président associé de Sanofi Pasteur qui l'explique. Jean Lang est en charge de la recherche dans cette filiale de Sanofi qui s'occupe des vaccins. À noter qu'il parle, comme en anglais, non pas de ARN messager, mais du RNA messager ou même du mRNA.
Le RNA messager tout seul ne marche pas, il est détruit immédiatement par les systèmes enzymatiques, donc il faut le packager, le formuler avec ce qu'on appelle une formulation des nanoparticules lipidiques. Donc c'est un peu comme un sandwich, vous voyez, comme un hamburger, vous entourez avec le pain. Et à l'intérieur, vous mettez la tranche de bœuf qui est en l'occurrence le mRNA, si je puis m'exprimer avec une métaphore pareille. Mais la façon dont vous colmatez vos lipides nanoparticules avec votre RNA messager est absolument clé dans la façon dont, pour le RNA messager d'entrer dans les cellules, franchir la barrière lipidique et d'être exprimé ensuite par le matériel de la cellule. Et là, c'est là où la cellule va fabriquer la protéine, vous voyez ce que je veux dire ? Et comme cette protéine est une protéine du virus, c'est du non-soi, va entraîner la production d'anticorps.
Ce sandwich dont me parlait Jean Lang fin octobre est propre à la recherche de Sanofi. Pfizer utilise peut-être d'autres nanoparticules pour enrober l'ARN, mais le principe est le même. Et on peut imaginer que si on arrive à introduire dans nos corps d'autres intrus qu'une fraction du virus du Covid, eh bien, on pourra effectivement combattre bientôt de nouvelles maladies.
Alors, on l'a dit, ces résultats prometteurs ont été annoncés hier par le géant américain Pfizer, en association toutefois avec un petit pousset, BioNTech, une société allemande spécialisée dans le traitement du cancer et des maladies graves ou héréditaires et qui depuis hier ne manque pas de rappeler au reste du monde que c'est bien sa technologie qui permet aujourd'hui de nourrir de réels espoirs. BioNTech, ou l'histoire d'une société familiale fondée par un couple de chercheurs allemands d'origine turque, deux universitaires qui auront bâti une longue carrière à la force de l'éprouvette. Leur portrait est signé depuis Berlin par notre correspondant Ludovic Piétenu.
Özlem Türeci et son époux, Ugur Sein, sont tous deux nés dans des familles d'immigrés turcs, comme beaucoup arrivés en Allemagne dans les années 60. Lui a 55 ans et elle 53. Elle est la fille d'un médecin qui travaillait à l'hôpital d'Istanbul avant de s'installer en Basse-Saxe où elle a grandi. C'est ensuite, plus au sud, à l'université de la Sarthe, tout près de la frontière française, qu'elle rencontre Ugur Sein, né en Turquie et arrivé en Allemagne à l'âge de 4 ans, d'un père ouvrier à l'usine automobile Ford de Cologne. Ensemble, ces chercheurs vont fonder deux entreprises de biotechnologie, toutes deux installées sur les bords du Rhin à Mayence. Ganymède, en 2001, qui rencontre un fort succès très vite, notamment dans la lutte contre le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Détenant plus de 50 brevets, la société est rachetée il y a 4 ans par un groupe japonais pour 1,2 milliard d'euros. Entre-temps, depuis 2008, le couple a créé BioNTech, le petit poussé dont tout le monde parle aujourd'hui. Le géant américain Pfizer avait déjà approché Özlem Türeci et Ugur Sein l'année passée pour d'autres projets. Les deux entreprises ont donc naturellement poursuivi ce partenariat en lançant très tôt, dès le début de l'année, leur première recherche sur le Covid-19. Ils sont un symbole aujourd'hui de cette réussite allemande, multimilliardaire en quelques mois. Ugur Sein, propriétaire de 18% des parts de BioNTech, a fait son entrée cet automne à la 86e place des plus grandes fortunes du pays.
Et pour continuer d'évoquer donc l'arrivée possible d'un vaccin aux résultats prometteurs, invité de la rédaction aujourd'hui, Yves Godin, directeur de recherche au CNRS, responsable du département de virologie à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à l'Université Paris-Saclay. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On a déjà dit combien cette découverte, donc 10 mois seulement après le séquençage du coronavirus, relevait d'une prouesse scientifique. En l'occurrence, et dans cette course donc mondiale effrénée, le géant américain de l'industrie pharmaceutique a battu des records de vitesse. On rappellera qu'au total, 11 vaccins sont en cours de développement, dont 4 rien qu'aux États-Unis. Dans quelle mesure peut-on se montrer réellement optimiste aujourd'hui quant à l'efficacité de ce vaccin ?
Alors d'abord, c'est 11 vaccins en phase 3, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de vaccins qui sont développés en phase 1 et en phase 2 à l'heure actuelle. Alors oui, ça reste quand même une bonne nouvelle. Hein. On ne peut que se réjouir. Maintenant, il faut quand même mettre des bémols. C'est une annonce. On n'a pas eu accès aux résultats bruts. Il peut y avoir des biais. Et c'est encore très précoce, puisque cette étude, je crois, devrait se terminer en fin 2022.
Ce vaccin, nous dit-on, serait efficace à 90% d'après des résultats préliminaires, c'est-à-dire que il a réduit de 90% le risque de tomber malade dans le groupe des volontaires qui étaient vaccinés par rapport à ceux qui n'avaient reçu qu'un placebo. En revanche, sait-on si, une fois administré, ce vaccin confère une immunité longue ?
Alors, deux choses. Vous me dites que c'est 90%, enfin le risque a été réduit de 90%. J'espère que c'est ça, mais c'est sur un mois de vaccination. Je me demandais s'ils n'avaient pas plutôt regardé la présence d'anticorps neutralisants. Mais je peux me tromper parce que j'ai pas accès à l'étude complète. Hein. Donc, de toute façon, c'est sur un temps très bref, puisqu'en fait, ça a été observé entre la première injection et la deuxième injection qui a eu lieu 3 semaines après, et puis ensuite une semaine, les gens étaient, enfin on a vérifié, je crois, la présence des anticorps. Donc c'est une période d'un mois. On souhaite des protections beaucoup plus longues, bien sûr. 6 mois, 1 an, voire 2 ans, voire plus.
Cela signifie
que on n'en sait rien à l'heure actuelle.
On n'est pas en mesure de savoir si ce vaccin sera susceptible d'éviter en réalité la transmission.
Alors, on l'espère. On l'espère. Mais à ce stade, c'est vrai que c'est difficile de le dire. On n'est pas certain que ce vaccin va protéger sur des longues durées. Et encore une fois, si on a juste mesuré les anticorps, ce dont je ne suis pas sûr, on ne peut pas affirmer qu'il limite réellement la contamination.
Quelle proportion de la population faudrait-il vacciner pour en terminer avec ce coronavirus?
Alors, ça, c'est assez facile à calculer. Vous savez, vous avez le taux de reproduction de l'épidémie, ce fameux R, parfois appelé R0 aussi. Ce fameux R, donc il y a une relation directe entre la proportion à protéger et ce R, et en fait, c'est 1 moins 1 sur R. Donc, en fait, si vous avez un R qui est autour de 3, en absence de mesures barrières, eh bien, 1 moins 1 tiers, il faudra protéger les 2 tiers de la population.
On ne doute pas que, évidemment, de très nombreuses questions risquent de se poser à plus ou moins long terme, telles que la possible monopolisation des doses par les pays riches. Mais avant de savoir qui aura les moyens, donc, ou non, d'y accéder, combien de temps faudra-t-il attendre encore avant que ce vaccin soit opérationnel?
Alors, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il me semble qu'il faut quand même qu'on ait des essais de phase 3 suffisamment longs. C'est pas seulement la protection, mais on veut garantir l'innocuité de ce vaccin au niveau populationnel. On ne parle pas de juste au moment où les gens vont être vaccinés, la petite rougeur, la petite fièvre, c'est pas ça. On parle d'éventuelles choses plus importantes, qui se dérouleraient au niveau de l'auto-immunité, enfin de maladies auto-immunes par exemple, ou finalement des gens qui seraient plus malades quand ils sont réexposés au virus après vaccination. Ça peut arriver, et ça on ne le saura qu'au cours du temps. Donc il faut déjà, à mon avis, une étude suffisamment longue. Et par ailleurs, effectivement, il y a la production de ces vaccins. J'ai cru comprendre que les Pfizer s'engageaient à fournir entre 30 et 50 millions de doses vaccinales d'ici la fin de l'année. Comme il faut apparemment 2 injections, ça ne fait que 25 millions de personnes qui seraient vaccinées.
Merci Yves Godin, directeur de recherche au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation. Alors aux États-Unis, la journée d'hier aura bien entendu été dominée à Washington par la confirmation de ces très bons résultats obtenus par ce prototype de vaccin, mais pas seulement, puisque hasard de l'actualité, c'est également le jour qu'avait choisi Joe Biden pour nommer un groupe d'experts scientifiques chargés de définir une stratégie face au coronavirus, une manière non seulement de reprendre donc le contrôle de l'épidémie à laquelle il doit en partie sa victoire, mais aussi de prendre le contre-pied de Donald Trump et ainsi espérer transformer la lutte contre la pandémie en symbole de sa capacité à remettre sur les rails l'État fédéral affaibli, discrédité par son prédécesseur. De son côté, Donald Trump, justement devenu l'un de ses perdants qu'il exècre, refuse toujours de concéder sa défaite. Enfin, en pleine pandémie, lui qui aura échoué jusqu'ici à faire tomber la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé, va-t-il faire totalement s'écrouler ce dispositif et priver ainsi plus de 20 millions d'Américains de couverture maladie? La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, dont 3 des 9 sages ont été désignés par le président sortant, doit examiner la loi à partir d'aujourd'hui. Alors que débute une nouvelle semaine cruciale de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur leurs futures relations commerciales, hier soir, Boris Johnson a essuyé un revers majeur à la Chambre haute du Parlement. Les Lords ont en effet massivement rejeté certains articles du fameux projet de loi par lequel il pensait s'affranchir de certains aspects du texte signé l'an dernier à Bruxelles. Alors on savait que les Lords y seraient défavorables, mais pas forcément à ce point. Précision à Londres de notre correspondant Richard Place.
Plus de 400 voix contre, autour de 150 pour. La balance penche clairement du côté défavorable pour le gouvernement. Lors des 2 votes d'hier soir, les Lords ont décidé d'envoyer un message très clair. Les conservateurs décrivent ce texte comme certes offrant la possibilité d'enfreindre les règles internationales, de revenir sur un traité signé il y a pourtant tout juste un an, mais de manière spécifique et limitée. Ce fameux projet de loi est celui qui pourrait remettre en cause les accords sur la frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande. Certains craignent alors le retour de tensions et l'émergence de nouveaux conflits dans une zone nettement plus apaisée ces dernières années. Et parmi les certains, il y a Joe Biden. Le président américain élu a des origines irlandaises. Il en est fier et il regarde de très près ce qui se passe sur la terre de ses ancêtres. Dans cette période de Brexit où le Royaume-Uni va devoir nouer des accords commerciaux solides en dehors de l'Europe, s'attirer les foudres du futur pensionnaire de la Maison-Blanche n'est sans doute pas une bonne idée. Mais peu importe, visiblement, le gouvernement a déjà fait savoir qu'il réintroduirait les amendements rejetés lors du passage devant la Chambre des communes. C'est là que les lois se décident et la majorité des conservateurs y est écrasante.
Malgré un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 en France, une partie des enseignants sont en grève depuis ce matin à l'appel de l'intersyndicale menée par le SNES-FSU. Des enseignants qui réclament une limitation du brassage des élèves dans le primaire ainsi qu'au collège, ce que refuse pour l'instant le ministère de l'Éducation, lequel estime que les risques de contamination y seraient moins élevés que dans les lycées autorisés, eux, à faire une partie de leurs cours en distanciel. Toujours est-il que c'est dans ce contexte sanitaire inédit que le ministère vient par ailleurs d'annoncer la mise en place, ce sera à partir de la semaine prochaine, 1 million de tests antigéniques à disposition des établissements scolaires, des tests, Hakim Kasmi, réservés uniquement au personnel.
Ces tests antigéniques, qui ont pour avantage d'être très rapides, avec des résultats en moins de 30 minutes, seront réservés uniquement aux enseignants à partir de la semaine prochaine, car ils nécessitent d'avoir une autorisation parentale pour les élèves. La priorité sera donnée aux zones sous tension et rurales, où l'accès au laboratoire est plus compliqué. Des tests qui seront pratiqués par les infirmières scolaires, qui sont déjà débordées avec la crise sanitaire, prévient Safia Guerrichi, secrétaire générale du SNIC-FSU, majoritaire chez les infirmières scolaires.
Chaque fois qu'il y a un cas suspecté à l'éducation nationale, c'est l'infirmière qui effectue le tracing et c'est même elle aujourd'hui qui envoie les lettres qui permettent aux personnes d'être maintenues en isolement. Et on le dénonce et nous, du coup, on a eu des deux élèves qui viennent et qui frappent à la porte de l'infirmerie pour d'autres problématiques, soit parce qu'ils sont victimes d'harcèlement, soit parce qu'ils ont des préoccupations sur leur santé, sur celle de leur entourage, sur leur sexualité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir à l'âge-là. On a vu pendant le confinement qu'il y avait une baisse des IVG, puis ensuite une augmentation. Les jeunes de notre pays continuent à vivre, à se croiser, à avoir des problématiques qui impactent leur jeunesse, mais qui impactent non seulement l'individu avec les conséquences sur sa santé à court terme et à long terme, mais qui aussi impactent sa chance de réussite scolaire.
Enfin, elles attirent les parents à rester vigilants sur le risque d'addiction aux écrans et au cyberharcèlement, phénomènes qui se sont amplifiés avec le confinement.
Et de 4, l'Assemblée nationale s'empare à partir d'aujourd'hui du 4e et dernier projet de loi de finances rectificative pour 2020, nouveau budget de crise, donc avec 20 milliards de dépenses supplémentaires en direction principalement des entreprises et des indépendants, un soutien que les oppositions voudraient renforcer. C'est encore en raison de la crise sanitaire que plusieurs figures politiques demandent à présent un report des prochaines élections régionales et départementales. Alors c'était le cas ce matin de Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche, à l'Assemblée nationale, et puis même son de cloche du côté du président Les Républicains du Sénat dans un entretien accordé au journal Le Figaro. Gérard Larcher donne lui aussi aujourd'hui son blanc-seing à un tel report. Et ce, alors que Jean-Louis Debré, missionné par le Premier ministre, doit remettre son rapport sur la question vendredi prochain. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Manifestement, la droite évolue donc sur ce changement de calendrier imposé par la crise sanitaire, mais elle pose toutefois ses conditions, Antoine.
Et la condition principale, c'est le maintien du scrutin avant l'été, c'est-à-dire au mois de juin au lieu du mois de mars, pas en septembre, ni encore moins après la présidentielle, car un président de conseil régional est ouvertement candidat pour 2022, Xavier Bertrand, une potentiellement Valérie Pécresse, et tous deux espèrent bien faire de ces régionales une rampe de lancement vers l'Élysée. Mais l'évolution de la droite sur ces questions de calendrier n'en est pas moins significative. Il y a encore un mois, ces élus voulaient maintenir le scrutin en mars, coûte que coûte, une raison bien pragmatique à cela, en plus de la présidentielle. La droite et le centre détiennent la majorité des régions et les présidents sortants sont mécaniquement favoris, alors pourquoi s'embarrasser d'une longue campagne? Sauf que depuis un mois, la situation sanitaire s'est dégradée. Le couvre-feu puis le reconfinement ont été mis en place et surtout, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Mars devient donc intenable, pas tellement pour le scrutin lui-même, mais pour la campagne qui va le précéder. Ce principe de réalité s'est imposé à droite avec l'aide de l'un des siens, Jean-Louis Debré, et sans doute à la lumière de l'expérience chaotique des municipales dont le second tour avait été reporté en catastrophe.
Merci Antoine Maret. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore chargé avec des averses pouvant aller jusqu'à l'orage de la Champagne-Ardenne, à la Bourgogne, l'Auvergne et jusqu'au pied des Pyrénées. Ciel gris en Alsace et en Lorraine. De la bruine est à prévoir sur la moitié ouest du pays. Partout ailleurs, le ciel deviendra plus variable avec quelques belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.